Et vous êtes toujours sur Zaï Zaï Radio, il est à peu près 14h, 14h passées.
14h7-8 peut-être.
Bon, ça va, on est à l'heure. Je suis avec Quentin.
Hello Zaïra, c'est moi. On va parler de la précarité étudiante ensemble.
En effet.
On va interviewer quelques personnes, mais d'abord on peut rappeler peut-être quelques chiffres.
Oui, ce serait smart. Déjà, il faut se dire qu'il y a plusieurs étudiants depuis quelques mois, ça augmente sans cesse, qui sont contraints de s'approvisionner en denrées alimentaires.
Eh bien, on est passé à presque 56%, je crois, en cette rentrée 2023. Et alors, il y a le gouvernement qui a dit on va valoriser la bourse de 4%, mais en fait, avec l'inflation et tout ça, ça ne suffit pas, évidemment. En tout cas, bon, on peut peut-être écouter un petit interpellation qui nous montre que ça a toujours été un problème, en fait.
Carrément, on va écouter Daniel Balavoine face à François Mitterrand qui dit des mots quelque peu poignants. Chris, s'il te plaît.
Permettez. Je voudrais dire que limiter...
Ça fait trois quarts d'heure que je suis là et que je m'ennuie à entendre des bêtises. Alors maintenant, si je peux rien dire avant la fin de l'émission, je parle pas pour vous, monsieur Mitterrand, parce que moi j'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, j'aurai pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps. J'ai juste le temps de me mettre en colère.
Vous voulez commencer maintenant ?
Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps, une minute, de m'énerver, juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Si j'avais su que je n'aurais pu rien dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard.
Je souhaitais votre présence, Daniel Balavoine, dans ce studio pour parler des problèmes de la jeunesse. Je pense que nous aurons eu le temps. Nous aurions eu le temps d'en parler. C'était de ça, et non pas de chanson. Et c'était pas de chanson dont il était question.
Je peux dire une chose importante. Si vous avez parlé pendant 10 minutes, au moins, de l'affaire Georges Marché, dont tout le monde se fout strictement. Je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marché faisait pendant la guerre. Ça lui est complètement égal. Ça intéresserait plus la jeunesse de savoir ce qui se passe et comment le Parti communiste encaisse de l'argent pour le dépenser après, notamment à la mairie de Bagnolet. Ça intéresserait mieux de savoir comment Gaston Defferre dirige sa mairie socialiste, qui n'est pas un modèle de société à Marseille. Ça intéresserait plus de savoir les jeunes Français comment M. Raymond Barre, qui est arrivé il y a 5 ans, ou 4 ans, ou je ne sais plus combien de temps, a dit que les salaires ne seraient pas diminués, mais qui a augmenté les cotisations de sécurité sociale. C'est beaucoup plus intéressant que tout ce que vous racontez. Georges Marché, on s'en fout de Georges Marché, il faut le savoir, ça. De ce qu'il faisait pendant la guerre, ça nous est complètement égal. Le problème de drogue, de la façon dont le traitent les ministres français, on s'en fout. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Regardez M. Soissons. Enfin, vous n'allez pas me dire que c'est un homme représentatif de la jeunesse. Regardez comment je suis habillé. Ils sont plus souvent habillés comme moi, les jeunes, que comme M. Soissons. Il faut quand même pas rêver. Tout ça, ce sont des bêtises. J'ai encore pris plein de notes au fur et à mesure que vous parlez. Ce que je voudrais savoir, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir à qui les travailleurs immigrés payent les loyers qu'ils payent. On a vu tout à l'heure des gens qui disaient « on paye 700 francs par mois ». Moi, je voudrais savoir qui encaisse de l'argent pour louer des poubelles pareilles. C'est ça que je voudrais qu'on me dise. C'est pas de savoir comment on peut faire pour le changer. Je voudrais qui ose tous les mois demander 700 francs à des travailleurs immigrés pour vivre dans des poubelles et dans des taudis. Ça, c'est ça que je voudrais qu'on m'explique parce que moi, je ne le sais pas. C'est pas l'information qui me le dit. Je voudrais savoir pourquoi M. Boulin a été suicidé ou s'est suicidé ou on ne le saura jamais. Pourquoi M. Fontané a été assassiné. Pourquoi l'affaire de Broglie n'a jamais été éclairée. Pourquoi le juge Renault, on ne sait pas ni pourquoi ni comment il a été assassiné. J'en ai d'autres. La seule chose que je peux vous dire, M. Mitterrand, j'en profite de vous avoir parce que je suis fier d'être là. Je peux vous le dire. On ne s'en aperçoit peut-être pas, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est pour un jeune d'avoir la possibilité de parler une minute. C'est pour ça que j'avais peur de ne pas pouvoir parler. Parce que ça n'arrive jamais. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Non, ça n'arrive jamais. Regardez l'émission qu'il y a eu hier soir sur Antenne 2, les dossiers de l'écran. Enfin, vous n'allez pas me dire que les mômes qui étaient concernés par la contraception...
Nous-mêmes ici, nous avons donné assez fréquemment la parole à des
gens. Je sais bien, on est obligé. Écoutez, vous exagérez l'information, je suis obligé de l'exagérer. Moi aussi, pour résumer, je la résume à ma manière. J'essaie de lire rapidement mes notes. Ce que je peux vous donner, en tout cas, c'est généralement, c'est un avertissement. J'ai peut-être du culot de faire ça, je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté, parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler.
Et toujours sur Zaï Zaï Radio, on va maintenant pouvoir accueillir notre première invitée en interview, et c'est Catherine Amiot.
Catherine Amiot qui gère l'épicerie sociale et solidaire du Nil, le Nil donc chez Angoulême. Et est-ce qu'on est avec vous, Catherine Amiot? Est-ce que vous êtes bien là?
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être présente avec nous sur cette émission sur la précarité étudiante.
Oui, merci.
Déjà, de rien. Déjà, on aimerait savoir, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de votre métier, en fait, en quoi ça consiste exactement ?
Alors moi, c'est assez particulier car je suis salariée de Magélis.
D'accord.
Et donc dans mes missions, j'ai trois missions puisque je suis rattachée au niveau de Magélis à la formation recherche avec Géraldine Zallier. Donc je suis son assistante. Je travaille au CREADOC, qui est une formation qui est rattachée à l'Université de Poitiers. Et j'ai une troisième mission qui est l'épicerie solidaire du Nil, 2 jours à peu près par semaine.
D'accord, et donc vous faites pas mal de choses.
C'est clair.
Je me posais une question, juste est-ce que vous avez remarqué là depuis cette rentrée 2023, est-ce qu'il y a une augmentation des gens qui viennent prendre un repas? Est-ce que vous avez senti quelque chose qui s'est passé par rapport à l'inflation, tout ça?
Alors, chez nous, ils ne prennent pas de repas. Ils viennent acheter des denrées.
C'est plus des denrées, d'accord.
Oui. Donc, on est à peu près sur une moyenne. Alors, pour qu'ils puissent accéder à l'épicerie, c'est ce qui est assez important, c'est qu'ils doivent passer par l'assistance sociale. Ils leur donnent un accès à l'épicerie en fonction de leurs revenus. Aujourd'hui, on a à peu près 120 dossiers qui sont finalisés. Il y a une trentaine de dossiers qui sont toujours en cours. Sachant qu'on est ouvert le mardi toute la journée de 10h à 19h30 non-stop. Et sur cette journée-là, on a une centaine de bénéficiaires qui passent.
D'accord, très bien.
Alors effectivement, il y a une petite... Enfin, pour moi, c'est assez régulier. Il y a eu beaucoup plus de monde pendant le Covid, où là, il n'y avait pas d'accès par le biais de l'assistance sociale. C'était vraiment ouvert à tout le monde. Et là, c'est vrai qu'il y avait énormément de monde, de bénéficiaires qui passaient, sachant que beaucoup avaient perdu leur travail. Donc là, on a eu, sur cette période de Covid, un peu plus de fréquentation.
J'ai cru voir également dans la Charente Libre que en fait vous avez réouvert l'épicerie en 2020. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment ça s'est créé en fait cette épicerie solidaire et de son vécu?
Alors l'épicerie existait déjà à la Couronne.
Ok.
À la fac de la Couronne, c'est eux qui ont créé. Enfin, quand le SCUC, puisqu'à la base c'est le SCUC qui a eu l'idée d'ouvrir une épicerie, c'était dans une classe qu'ils avaient aménagée. Et quand moi je suis arrivée à Magélis en 2020, on m'a demandé si j'étais intéressée pour ouvrir une épicerie parce que les étudiants qui sont au niveau d'Angoulême, au centre-ville, n'allaient pas à la Couronne. Donc on a voulu faire une deuxième antenne. Donc on a ouvert une deuxième antenne. Malheureusement, le Covid est arrivé. Et donc, moi, je devais ouvrir le mardi et la Couronne devait ouvrir le jeudi.
D'accord.
Et avec tous les problèmes qu'il y a eu avec le Covid, la Couronne a fermé et tout est venu se centraliser sur le Nil.
D'accord. J'ai cru voir sur votre site là que vous faisiez des ateliers culinaires une fois par mois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
Alors, c'est pas trop moi qui m'en occupe, c'est Marie-Céline qui organise des ateliers culinaires. Donc, c'est des ateliers qu'on essaie d'animer pour apprendre aux étudiants à cuisiner, pour certains, à découvrir des choses très simples qu'on peut faire rapidement le soir. Donc, on a une intervenante qui vient et qui explique tout ça assez rapidement. Et donc, ça fait des petits ateliers, je crois, de 2 heures. Il y a ça aussi. Et on a aussi des bols repas qu'on distribue aux étudiants le vendredi soir.
Oui, à 50 centimes, là,
à
c'est ça
aussi. Voilà, c'est ça. C'est le surplus de Marguerite de Valois qu'on reconditionne dans des bols et on revend aux étudiants à 50 centimes le bol. Ça leur fait le repas pour le week-end.
Super, super.
Voilà.
Et justement, vous parliez tout à l'heure du fonctionnement, qu'il faut passer par une autre structure. Est-ce que vous pouvez approfondir un peu là-dessus pour les étudiants et étudiantes qui nous écoutent? Comment aller chez vous?
Donc voilà, pour accéder à l'épicerie, il faut contacter l'assistante sociale qui est l'assistante sociale du CRUZ. Elle fait des permanences sans rendez-vous le mercredi à la Couronne. Sinon, elle fait aussi des rendez-vous téléphoniques. Et donc après, elle étudie chaque cas. Donc, elle peut donner accès à l'épicerie, mais elle peut aussi donner des conseils sur d'autres aides qui peuvent être nécessaires aux étudiants. Et donc, après, elle donne un accès de 6 mois, de 3 mois, où ça peut être ponctuel parce que un étudiant a eu un problème de voiture, des frais supplémentaires, etc. Donc, il peut avoir accès que sur une petite période. Okay. Et donc, après, nous, on les reçoit avec plaisir. Donc, on a du frais, on a des légumes, on a du sec. On a des produits d'hygiène et voilà, des produits d'entretien. Et on est assez, c'est assez ouvert.
Ouais, et vous sachant avez... Pardon, allez-y.
Oui, sachant qu'ils ne payent que 10% à peu près du prix du commerce.
Ah, super. C'est-à-dire
que si vous voulez un ordre d'idée...
C'est pas mal ça, il faut vraiment être que étudiant pour venir...
40 centimes.
Et les étudiants qui viennent, moi je me demandais, c'est à peu près quel genre d'école? C'est du public, du privé? Parce que là où vous êtes installé, il y a beaucoup d'écoles artistiques, mais je sais qu'à Angoulême, il y a aussi d'autres types d'étudiants qui sont un peu plus éloignés.
Alors normalement, si je ne me trompe pas, il faut que l'école ait adhéré au SCUC, soit payé une cotisation au SCUC. Mais on a toutes les écoles, on a le CEP, on a l'ESI, on a l'EMCA. On a l'école 42, on a le CREADOC, l'atelier, on a Charles Coulon, l'IP. Oui. Donc c'est quand même assez... on a l'IPSI, l'école des infirmières, on a le CESI, les ingénieurs, on a la fac de droit. Donc voilà, c'est quand même... je crois qu'il y a une vingtaine d'écoles qui viennent.
Et on a une question aussi... en fait, on se demandait si c'était prévu qu'à La Couronne, ça réouvre, étant donné qu'il y a la fac plus le CROUS, donc c'est une zone quand même très, très estudiantine. Ils ne se déplacent peut-être pas dans le centre.
Alors, ils viennent. Mais c'est vrai que ça a été, les premières années, a été un peu compliqué. Oui. On avait un peu perdu le droit, le sport, le CESI et les infirmières. Maintenant, ils ont pris l'habitude que ça soit au NIL. Effectivement, ça serait un projet de rouvrir une deuxième antenne, sauf que le problème, c'est que moi, je suis salariée de Magénis, mais il y a des bénévoles qui m'aident. Et après, le problème, c'est qu'il faut trouver un lieu, il faut achalanger, il faut faire les commandes, etc. Et on ne sait pas trop encore, mais c'est peut-être en projet. Mais bon, un coup, on me dit ça y est, c'est bon. Après, ça tombe à l'eau.
Je comprends. Mais en plus, vous devez quand même avoir du monde, du coup, qui finisse par se déplacer des endroits plus éloignés, malgré le bus ou la voiture, je suppose. Ils viennent quand même vous voir.
Bon, alors l'avantage, c'est qu'ici, il y a le bus. Oui. La fac de sport, par exemple, la plupart ont des voitures, puisqu'ils doivent se déplacer pour aller, quand ils vont à Saint-Thierry, à Nautilus ou des choses comme ça, ils ont l'habitude de prendre des voitures. Donc, on arrive, les infirmières, comme elles sont souvent en stage, assez éloignées d'Angoulême, elles ont des voitures. Donc, voilà, maintenant, elles ont pris le rythme, mais j'ai assez de monde qui vient quand même régulièrement de La Couronne.
Et d'ailleurs, vous avez du monde qui vient, mais aussi des étudiants et étudiantes qui travaillent avec vous à l'épicerie solidaire, paraît-il.
Oui, il y a des bénévoles sur les bols du vendredi. On récupère aussi des viennoiseries, des apprentis boulangers de l'Amandier. Ouais. Donc, ils nous fournissent du pain et des viennoiseries le mardi et on fait notre récolte le mercredi. Et redispatcher après un petit peu dans les écoles en fonction des quantités qu'on a.
Okay.
Et ça, par contre, c'est offert. C'est des produits qu'on récupère et qu'on distribue gratuitement.
Super. Super. Ouais. Bien, on vous a gardé quand même pas mal de temps, Madame Amiot, mais est-ce que vous auriez un petit mot à dire aux étudiants et étudiantes d'Angoulême?
Alors, moi, je leur conseille de passer voir l'assistante sociale, de pas se dire « oui, mais un tel n'a pas eu, donc je n'aurai pas ». Il vaut mieux faire le dossier. Et puis, moi, je suis toujours ravie de les recevoir le mercredi. Il y a une très bonne ambiance et il faut venir. C'est avec plaisir qu'on les recevra.
Super. Merci beaucoup, Catherine Amiot. À très vite à l'épicerie solidaire du Nil.
Merci beaucoup.
Et merci.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée. On va vous laisser avec une petite pause musicale avec un morceau, Quentin, s'il te plaît.
Qui s'appelle « Le paradis se trouve dans le 93 » de Théodora.
Quand je me sens seule, je discute avec les rats de la ville. Ça casse ma déprime, ticket resto en guise de prime. Ici le salaire balle pas une nuit. Les gens, les poumons qui s'abîment. 10 balles le paquet, c'est trop cher. RDV marche sans bout. Ça sent trop le vécu. Mais ici y'a pas de paradis. Je suis dans le droit, je suis ravie. Loin de ceux qui virent chaque année argent dans paradis. Fisque 10 balles le paquet, c'est trop cher. RDV marche sans bout. Ça sent trop le vécu. Mais ici y'a pas de paradis. Je suis dans le droit, je suis ravie. Loin de ceux qui virent chaque année argent dans paradis. Dis bah le paquet c'est trop cher, RDV marche sans bout. Ça sent trop le vécu, mais ici y'a pas de paradis. Je suis dans le droit, je suis ravie. Loin de ceux qui virent chaque année argent dans paradis. À cause de toi je crie, oh là.
Des allées quasiment désertes, mais des bâtiments bien remplis. Sur le campus de Nantes Université, entre deux examens, certains profitent de la bibliothèque ou du pôle étudiant pour réviser au chaud, à défaut de pouvoir le faire chez eux.
On a fait le choix de chauffer que les chambres, parce qu'après on n'a vraiment aucune isolation au niveau de la cuisine, donc quitte à chauffer, autant chauffer les chambres et on ne pourrait pas chauffer la cuisine. Donc on reste en manteau, ouais, parce que là il fait très froid, mais quand tu fais du degré, ça va, on s'habitue.
Se priver de chauffage, un compromis parmi d'autres pour pouvoir s'en sortir. Par manque de place dans les résidences universitaires, beaucoup se tournent vers des locations privées plus coûteuses. Conséquence, près d'un étudiant sur cinq dit ne pas manger à sa faim et doit parfois sauter des repas. La majorité vit avec un budget très limité.
J'alterne entre les phases où je travaille et les phases où mes parents m'aident, parce que tout seul, je ne suis pas en mesure de payer mon loyer, payer la nourriture, payer mon abonnement au transport en commun.
Ne pas acheter de produits de marque, essayer de se restreindre sur les plaisirs et du coup essayer de se fixer un budget par mois pour les courses et pas le dépasser.
Épicerie solidaire, aide à l'achat de matériel informatique ou encore chèque énergie. De l'université aux associations, les initiatives se multiplient pour venir en aide aux étudiants. Touché lui aussi par la précarité énergétique, le vice-président d'Interasso Nantes dénonce un manque d'accompagnement face à une situation de plus en plus critique.
Si les problématiques elles s'accentuent, à un moment la réponse associative solidaire, elle a quand même des limites et c'est là où nous on essaye de tendre la main au pouvoir public en leur disant bah là faut prendre le relais parce qu'on peut plus quoi.
41% des étudiants sont désormais contraints de travailler en parallèle de leur cursus. Selon la Fédération des associations générales étudiantes, la précarité est la première cause d'échec académique en France.
Et c'était un extrait d'un reportage qui a été fait il y a seulement 2 semaines. Donc comme quoi, c'est toujours bien, bien, bien d'actualité.
En 2 semaines, ça a peut-être changé la situation, non ?
Oui, oui, j'y crois, oui. Non, mais j'ai des chiffres aussi, encore plus pour appuyer ça. C'est une étude qui a été faite par l'association COP1 et par l'IFOP. En fait, c'était une étude où ils ont mélangé en enquête miroir un échantillon d'étudiants en fait, qui allaient chez Copain, donc une association qui va aider au niveau des denrées alimentaires. On en reparlera un peu après. Et ensuite, l'IFOP qui ont pris un échantillon dit représentatif de la population d'étudiants en France. Et qu'est-ce qu'on a comme petit chiffre tout joyeux ?
On a des chiffres pas ouf, je pense. J'ai l'impression.
Attention ! La moitié en fait, des étudiants a déjà supprimé un repas dans leur journée. 36% des étudiants envisagent d'avoir recours à une aide alimentaire et les trois quarts ont dû modifier leurs habitudes de consommation du fait de l'inflation. Et de plus, comme le disait le petit reportage d'avant, la précarité étudiante, c'est aussi une des plus grandes raisons pour laquelle il y a échec scolaire, arrêt d'études et compagnie.
Sur dépression, il y a eu le logement qui a augmenté aussi. Mais pour parler de tout ça, du coup, on est avec deux personnes qui sont peut-être dans l'échantillon dont tu viens de parler. On est avec Emma et Aura.
Salut.
Salut.
On va vous demander un peu des questions sur déjà vos parcours personnels, mais aussi un peu, Aura, tu nous parleras plus en détail du collectif étudiant que vous avez manifesté. Vous avez fait pas mal de choses le week-end dernier. Mais d'abord, Emma, je me tourne vers toi. Toi, tu n'es plus étudiante, mais depuis pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as vécu les choses quand tu étais étudiante ? Est-ce que tu t'es reconnue dans ce qu'a raconté Zahira, dans les chiffres qu'elle vient de sortir ?
Ouais, complètement. Bah, du coup, moi, là, maintenant, je vais avoir 24 ans et du coup, j'ai très vite arrêté mes études à cause, en fait, de bah, vraiment typiquement de ce genre de situation. C'était en 2019, après mon bac, je suis partie à Poitiers pour faire une fac d'art du spectacle. Et il y a eu le Covid qui est arrivé après, donc je me suis retrouvée dans cette situation où j'étais pas avec mes parents, j'avais pas de boulot, j'étais boursière et il fallait payer le loyer, la bouffe. Donc très vite, je suis partie de Poitiers parce que j'avais pas les moyens. Et j'ai dû arrêter mes études à cause de ça et je me suis lancée ensuite dans d'autres choses. Je me suis engagée dans des assos, j'ai fait un service civique, j'ai tenté de monter mes projets. Mais ouais, j'étais boursière avec l'échelon le plus élevé, donc à l'époque c'était 500. Je crois que ça a été revalorisé à 600 euros, mais à cette époque c'était 550 euros.
Ouais. Et puis c'est pas assez pour payer et le loyer et pour la vie, quoi.
Oui, ça suit même pas l'inflation, justement, la revalorisation qu'ils ont fait.
Oui, non mais ouais. C'est affolant, parce que déjà à l'époque... Quand on est, il y a des étudiants qui ne sont pas boursiers et dont les parents n'ont pas les moyens de les aider. Mais là, c'est pareil, moi j'étais boursière avec des parents qui n'avaient pas les moyens. Et je devais payer le loyer, l'électricité, les assurances, il y en a plusieurs. L'essence, les fournitures scolaires. J'étais en art du spectacle, du coup, il faut aller au théâtre. Bah, en fait, c'est 100 ou 150 euros.
Puis on l'entend énormément, ça, les étudiants qui ont ce débat dans leur tête entre soit je mange ce soir, soit je m'achète le livre pour mes cours. Quoi.
Mais exactement, mais en plus, typiquement, j'étais dans cette situation où déjà je mangeais que des pâtes et du riz et je sautais les repas. Et j'allais pas au Crous parce que c'était trop cher. Donc là, c'est chouette, ça a été revalorisé, mais aussi que pour les étudiants, les étudiants boursiers, pardon. C'est encore autre chose, mais...
Oui, il y a beaucoup d'étudiants non boursiers qui sont très précaires, en fait. Et, pardon, je vais me tourner vers Aura maintenant, parce qu'on a parlé plus de la vie du côté matériel, donc le logement, le transport. Aura, toi, tu fais partie d'un collectif, d'un groupe d'étudiants en art, allez-y, qui ont beaucoup bougé, qui ont mis en place beaucoup de manifestations, d'interpellations, parce que les îles, l'année dernière, déjà, ils ont eu des coupures de subventions. Et vous avez notamment fait une manifestation samedi dernier avec d'autres personnes pour parler de la condition artistique. Et bon, moi, je voudrais que tu nous parles de la précarité étudiante, plutôt du côté de l'école, quand en fait, l'école elle-même ne peut pas nous donner les moyens d'étudier. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
On a organisé cette manif la semaine dernière pendant le FIBD qui joint plein de causes en même temps. Au départ, c'est né, on l'a organisé aussi l'année dernière, donc c'était la deuxième édition. Et c'est né de l'entrain de la mobilisation qu'il y avait déjà dans notre école qui rejoint le mouvement national des écoles d'art en danger, donc qui se bat contre la casse des services publics et donc notamment des écoles d'art publiques dont on retire petit à petit les fonds. Et
dire, c'est que les écoles d'art privées, il y en a beaucoup. Moi, je pense notamment au milieu de l'animation. Et moi, je connais pas mal d'étudiants et d'étudiantes qui doivent, par exemple, prendre des crédits étudiants et qui se retrouvent après leurs études à devoir les rembourser. Et ils n'ont toujours pas trouvé de travail. Enfin, donc c'est un peu ça qui guette, quoi, le danger.
C'est exactement ce dont on a peur. Déjà que les études en art et la culture n'est pas aussi accessible qu'elle devrait l'être ou qu'elle se plaît à le dire, mais là c'est exactement ce qui nous guette en fait. On le voit petit à petit, il y a des mesures qui sont prises un peu insidieuses pour aller vers ça, et nous on se bat pour conserver ça qui est précieux. Et aussi, enfin, il y a le pendant l'école, la précarité des étudiants, la précarité de l'école elle-même et de son statut public actuel. Et après ça, pour ce qui concerne notre école, du coup, ensuite, pour la plupart des personnes deviennent artistes auteuristes. Et pareil, c'est un statut qui est,
Très précaire.
Précaire et qui... Ça se sait pas trop, en fait. Nous, pendant le festival de la BD, notre intérêt, c'est vraiment de visibiliser cette difficulté pour les personnes qui créent notamment toutes ces BD, qu'on vient célébrer quelques jours pendant le festival à Angoulême, mais en fait, on est très peu au courant des conditions dans lesquelles elles travaillent et de cette précarité, de cette instabilité. Et on va souvent la justifier par l'idée que c'est des métiers passion, que quand tu es artiste... c'est pour ça qu'on avait un slogan qui était « Nique la bohème, rendez l'argent ». Parce que... tout simplement, comme dans la chanson d'Aznavour, il parle de sauter des repas, de vivre d'amour et d'eau fraîche.
Mais c'est un peu romantisé.
Voilà, c'est marrant pour la chanson, ça marche 5 minutes, mais tu peux pas...
En fait.
quand tu gèles dans ton lit, je crois pas que c'est un plaisir, voilà. Finalement.
Il parle de vraies personnes qui ont un vrai travail, qui fait partie d'une vraie économie, où il y a des personnes qui se font beaucoup d'argent.
Bien sûr.
Beaucoup d'argent, des maisons d'édition, de tout un festival, une ville, etc. Ouais. Et derrière, les personnes qui créent vraiment et qu'on célèbre, leurs conditions ne suivent pas.
Ouais.
Et est-ce que toi tu vois des cas, parce que j'ai entendu dire pas mal de ce type de cas dans mes cercles d'amis, de réorientation, dû au fait justement que c'est vu comme des métiers précaires
Là, pendant que tu racontais ton expérience, Emma, je pensais précisément au cas d'une amie très proche qui en fait a vraiment... qui est très créative, qui a vraiment, moi je dirais le profil Beaux-Arts, je la verrais vraiment s'épanouir dans cette école-là, et elle avait été prise au Beaux-Arts d'Aix, Aix-en-Provence, et en fait elle a abandonné parce que c'était pas possible de trouver un logement à un prix décent qu'elle allait pouvoir assumer, quoi. Alors qu'elle avait eu le concours après avoir pas eu d'autres concours, enfin c'était vraiment une victoire qu'elle ait ce concours-là. Et en fait, elle est passée à autre chose parce que c'était pas aucune solution n'était viable. Et c'est hyper dommage, même si bon, maintenant elle fait d'autres choses, etc. Mais on voit que ça a un impact très concret, quoi.
Ouais, c'est violent. Hein. Emma, je vois que t'as eu un haut au cœur. C'était physique.
Je trouve ça terrible.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, quand tu disais Nick la bohème, tout ça. Alors effectivement, quand on est artiste, il y a ce truc où on dit oui, c'est un peu normal de galérer. Et je trouve qu'il y a un peu ce discours qui est dit sur les étudiants. Les étudiants, c'est un peu normal, c'est un peu on apprend la vie, voilà. Ouais. Est-ce que vous l'avez ressenti, ce truc-là? Enfin, vous l'entendez un peu? Je ne suis pas fou. Non,
t'as complètement raison. T'es pas fou, Quentin.
Mais en plus de ça, ce que je trouve marrant, c'est qu'il y a un peu cette promesse de « oui, mais c'est une période, après, normalement, ça se passe bien. » Et
puis on va trouver du travail.
Bon, oui, bien sûr. Et du coup, ça va, Emma, ça se passe bien, le travail, maintenant?
Non. Non, pas du tout, en plus. Non, pas du tout aussi, mais vu que j'essaie de faire mon intermittent, c'est encore une autre, un peu une autre question. Là, c'est la galère toute ta vie, là. Voilà.
Bah c'est sûr, mais est-ce que tu as l'impression de rentrer dans ce truc de cliché de « je gère ma vie comme il faut parce que je suis jeune » Est-ce que c'est pas un peu pesant aussi quoi d'entendre ça autour de toi?
Que c'est normal de galérer?
Ouais.
Bah si, mais enfin, c'est pas faux non plus, dans le sens où c'est la galère. Donc je sais pas trop comment répondre à ta question, mais...
C'est un peu, c'est un peu un état de fait, tout le monde l'a un peu accepté et a décidé de ne pas trop changer cette chose-là, quoi. Mais du coup, pour aller plus loin, est-ce que vous avez déjà des idées, des solutions qui vous parlent, qui pourraient régler les soucis auxquels vous avez été confrontés? Peut-être toi, Aura, je pense qu'avec votre groupe et vos âgés, vous avez peut-être eu des revendications précises.
Il y a des revendications précises, oui. Alors après, entre... ce qu'on demande et ce qui est possible d'acquérir dans un délai correct, Je sais pas exactement où ça se passe. Après, moi, ce que je remarque, c'est peut-être, ça peut sembler peut-être un peu naïf parce qu'il s'agit pas de choses matérielles, mais moi, ce que je remarque, c'est que de cet état de crise, naît aussi, enfin, moi, c'est mon expérience perso dans l'école, mais est née une mobilisation et du coup une force et une solidarité collective qui est presque indestructible, parce qu'à partir du moment où tu t'es rendu compte que tu peux faire des choses ensemble et que t'as pas à attendre qu'on te donne la permission, et que de là peuvent naître des vraies choses beaucoup plus viables que ce que le système nous propose.
Ah, c'est sûr que isolé, c'est pas comme ça qu'on va avancer quand on est isolé.
Coup, il y a ça qui naît. Après, ça reste... c'est sûr que tous les jours, on apprend des nouvelles de plus en plus dramatiques et désespérantes sur toutes les situations. Enfin, je pense aux étudiants en école d'art spécifiquement, mais en fait, ça touche tout le monde. Et
C'est vrai que on parlait de beaucoup de choses qui en fait touchent énormément d'une grande part de la population française. En fait, par exemple, le logement et l'inflation, c'est quelque chose qui a touché à peu près tout le monde, quoi. Donc, en fait, là, on parle spécifiquement de la précarité étudiante, mais en vérité, si on veut détricoter un peu le problème, en fait, il y a tellement de chantiers.
C'est une jolie toile d'araignée. Hein.
C'est clair. C'est...
Mais dans ce qui est des solutions, c'est vrai que tu parlais de ce qui est immatériel, mais c'est fou aussi cette solidarité qu'on ressent, quoi, en voyant justement la manifestation dite des bouffons de samedi dernier, qui a été super bien organisée avec des slogans qui pètent, même de la musique bien live. Enfin, c'était fort comme moment. C'est très agréable de voir ça aussi, de voir que les gens se soude un petit peu.
Je pense que c'est hyper précieux, et malgré tout, même si ça peut sembler des fois des choses, enfin, je reviens sur ce que j'ai dit, immatériel, etc. Finalement, avec le, enfin, je le vois. Moi, j'étais beaucoup dans l'organisation de la parade des bouffons. On faisait les AG, etc. Très vite, il peut y avoir un engouement collectif qui grandit, et très vite, il y a plein de gens qui viennent avec des ressources. Matériel pour le coup, pour nous aider. Tu parles de la fanfare, et je pense notamment au fait qu'il y a des trucs tout cons, comme on a besoin d'une salle pour se changer, un truc, l'a pas, on a que galère sur galère, on nous refuse ci, on nous refuse ça. Et grâce à cet engouement collectif et à des personnes qui ont vraiment envie de faire les choses, on réussit à trouver en bricolant des solutions, quelqu'un qui peut accueillir dans une autre école. Tout le monde a ses petites... astuces qui nous permettent de construire cette grande chose qui fonctionne. Mais c'est vrai que, et je reviens encore sur ce qu'on disait avant, c'est vrai qu'on a tellement normalisé le fait que ce soit la galère d'être étudiant, qu'on en vient, je pense, à oublier. Enfin, là, je réécoute dans l'émission les témoignages, et même des choses beaucoup plus anciennes, et je me dis, ça, c'est vrai que c'est pas du tout normal, et on en vient à se dire, c'est juste la vie. Mais en fait, c'est une charge folle de devoir penser tout le temps à comment tu vas bricoler ceci, cela pour juste être dans un confort normal.
Ça fait être efficace vraiment dans tes études. Voilà, c'est ça qui est très paradoxal, quoi.
Puis d'ailleurs, on a un autre petit extrait qu'on peut passer, qui parle justement peut-être de ces assos qui en fait essayent de faire qu'ils peuvent pour enlever un tout petit peu de charge, ne serait-ce que matériel pour le coup. Chris, s'il te plaît.
En plein Paris, les files d'attente ne désemplissent pas devant les distributions alimentaires destinées aux étudiants et qui permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Alors là, il est 19h40, on est en pleine distrib. Là, on attend plus de 600 étudiants, donc c'est énorme, et malheureusement, on commence à avoir l'habitude. Mais voilà, donc 600 étudiants qui attendent Linky pour pouvoir manger toute cette semaine. Alors là, ouais, c'est les stocks. En fait, pendant toute la distribution, on remet des stocks sur les tables pour tous les étudiants et à manger. Il n'y a jamais d'étudiant qui est parti sans son colis.
Alors là, il y a deux files, c'est ça? On commence par les légumes?
Ouais, alors les étudiants, ils s'émargent, ils se sont inscrits au préalable sur internet. Ça prend 2 minutes pour s'inscrire. Il n'y a pas de condition de revenu, on est ouvert à tous les étudiants. Alors là, on a les fruits et légumes. Donc tout ce qui est navets, salades, poireaux, tout ce qu'on a récupéré. On a des pommes, on a tous les produits secs, donc pâtes, riz, sauce. Ensuite, on a les produits frais, donc ce soir, on a des plats préparés, les salades, tout ce qu'on récupère chez les restaurateurs. On a aussi les sandwichs triangles. voilà, donc végétarien, donc adapté pour tous les régimes. Et là, on a toutes les viennoiseries, donc tous les bons boulangers de Paris. On récupère leurs invendus et on les distribue le soir même ici, dans le 20e.
On a de tout, on a eu des fruits, des légumes, même des petits sandwichs pour si on a besoin de manger un truc rapide. Même parfois des produits d'hygiène, genre pour les menstruations, des choses comme ça. Donc il y a de tout.
Des aliments simples et naturels.
Oui.
Enfin, vraiment pour qu'on mange bien, et c'est important quand même. Parce qu'il y a vachement ce cliché-là d'être étudiant et de manger mal, de manger des plats préparés. Donc là, vous avez les pâtisseries, on peut voir des bananes, les plats préparés, la salade, des tomates, des bananes.
D'accord.
Voilà.
Sandwich.
C'est varié en fait.
J'ai presque plus besoin de faire les courses, surtout que des distributions comme celle-ci, il y en a plusieurs par semaine. Donc si vraiment on est dans le besoin, on a le choix d'y aller. Je pense pas que j'aurais pu faire autrement.
Si d'autres étudiants n'ont pas souhaité témoigner, certains ont participé à une étude de l'association. Plus de 70% des interrogés ont un reste à vivre de 3 euros par jour.
Moi j'ai repris l'université et c'est vrai que ça se ressent en fait, que les étudiants on est en galère. Parce que moi-même je suis étudiante en L2, donc c'est vrai qu'on est beaucoup en galère, on n'a pas beaucoup d'aide et avec l'inflation, les prix qui augmentent, c'est pas tous les jours facile. Le nombre d'étudiants qui viennent chaque jour récupérer un panier, c'est vrai que ça nous touche. Chaque soir ils repartent fatigués en nous remerciant et nous de même, fatigués en les remerciant de pouvoir affirmer qu'ils ont besoin d'aide parce que c'est pas tous les jours facile pour eux. C'est vrai que parfois ils se cachent de ça, ils ont honte alors qu'il ne faut pas.
On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient aux distributions, beaucoup d'étudiants. Et donc on s'est dit on va ouvrir une distribution faite par des étudiants, pour des étudiants, à partir de produits récupérés. Ça a commencé en octobre 2020, donc c'était les toutes premières distributions massives. Et puis on est encore là 3 ans après. Non seulement on doit être là en ce moment parce qu'il y a du monde, mais en plus il y a de plus en plus de monde. Il y a le double de ce qu'il y avait l'année dernière. Donc on est assez inquiet pour cette rentrée. Il y a beaucoup de demandes et il y a une précarité étudiante qui ne fait qu'augmenter.
Locale, culturelle, indépendante, étudiante, musicale, Zaï Zaï Radio.
Toujours sur Zaï Zaï. Et encore des mots du coup sur cette précarité étudiante et aussi des propositions en fait d'action de la part de ces associations-là type Linky. Et il y en a une autre, je vous ai parlé tout à l'heure de l'association Copains qui ont fait cette fameuse étude avec l'IFOP, qui nous ont donné des super chiffres qui vraiment sont chiants concrètement. Et je vais vous en dire peut-être un petit peu plus parce que peut-être que vous, si vous êtes étudiant, étudiante, vous pouvez vous en servir. C'est une assoce qui est dite apartisane et indépendante et qui est motivée du coup par le but de porter assistance aux étudiants dans le besoin. Et en fait, il y a une distribution qui est gratuite de denrées alimentaires, de produits hygiéniques, de vêtements, de produits d'hygiène tout court, hein, et aussi des accès aux droits à la culture, au sport, à l'emploi et plein d'activités proposées. Ce que fondamentalement, je trouve chouette, parce qu'on entend souvent parler de distribution alimentaire, mais comme tu disais tout à l'heure, Aura, et Emma d'ailleurs, en fait, en école d'art, t'es censée baigner dans la culture, quoi. Mais comment tu fais sans argent pour y aller ? Et du coup, Copains, c'est dans plusieurs villes en France hexagonale et en Martinique et en Guadeloupe. Et il y a des distributions alimentaires sous inscription, hein, et de jolis petits chiffres sont donnés là également. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bénévoles, il y a 16 distributions par semaine. Il y a plein de gens, en fait, qui y vont. Et c'est une bonne chose quand même, il y a des produits variés, de qualité, qui sont adaptés au goût et aux besoins. Puis les étudiants, ils peuvent composer eux-mêmes un panier pour ce qui est alimentaire. Et en ce qui est culturel, justement, il y a des sorties qui sont proposées toutes les semaines, que ce soit pour aller au cinéma, voir un spectacle, concert, opéra, expo, tout ce qu'on veut. Donc c'est cool aussi d'accorder peut-être un accès à la culture aux gens qui ne payent pas. C'est comme par exemple le principe des off, qu'on a bien couvert comme il faut avec Zaï Zaï Radio pendant le festival de la BD. Mais c'est chouette, c'est aussi un encouragement de ça, en fait. Si tu ne peux pas aller au théâtre parce que tu dois payer 50 balles pour aller voir l'artiste que tu veux, il y a peut-être un autre moyen, tu veux découvrir l'artistique, la culture. Quoi. Heureusement qu'ils existent, tous ces petits loups-là.
C'est clair. Et du coup, Emma, tout à l'heure, on te regardait avec Zahira. T'avais l'air d'avoir envie de sortir un peu des choses.
Sortir les gants.
Il y a quelque chose que tu as envie de dire là, parce que ça te mettait un peu en colère.
Ouais, ça m'énerve pas mal. Ça m'énerve pas mal qu'on parle tout le temps des étudiants ou des jeunes, en fait, de façon un petit peu négative, dans le sens où. Je trouve vraiment, alors je suis plus étudiante, mais ça va, je crois que je suis encore un peu jeune.
Un peu.
Ça passe.
Il n'y a pas assez de visibilité, il n'y a pas assez d'échanges ou d'écoute, en fait, dans, on va dire, les 18-30, à peu près cette tranche d'âge. Parce que maintenant, plus on vieillit et on est encore jeune longtemps. Donc ouais. Ça, c'est cool.
Merci beaucoup, Emma.
Mais, typiquement, ouais. Par exemple, allez, je fais un exemple. C'est super intéressant sur BFM TV de parler de la Coupe de France ou j'en sais rien, des JO qui arrivent. Ok, on va peut-être passer 25 minutes là-dessus en boucle, mais en fait, les étudiants qui font la queue encore aujourd'hui devant les épiceries sociales ou solidaires, pardon, on va en parler une minute. Sauf qu'en fait, on est là, c'est nous les adultes de demain, c'est nous qui allons en fait être les politiciens, oui. Les chefs d'entreprise, ceux qui font le cinéma, la musique. C'est nous en fait.
C'est parce qu'un désintérêt pour le futur de la nation un peu.
Un petit peu.
Comme ça,
Non, mais je veux dire, il y a vraiment un gros manque de considération et j'en perds ma phrase. Oui, voilà. Et au-delà de ça, un étudiant, faut quand même pas oublier que c'est quelqu'un qui, on va dire, un travailleur, il va faire un 35 heures semaine où il va être payé pour faire son travail. Donc d'accord, un étudiant, c'est dans le nom, on va étudier pour apprendre, pour mettre en pratique ou faire quelque chose plus tard. Un étudiant qui fait un 35 heures, qui ensuite va avoir un petit job alimentaire, qui doit aller au théâtre ou alors faire un stage. C'est rien que la galère des stages, pour trouver des stages.
Ouais. C'est clair.
T'es pas rémunéré là, dans certains cas. Là, j'en sais rien. Les pourcentages.
Dans la plupart des cas, oui.
Voilà. Et en fait, tu vis avec quoi ? Je vais juste dire un truc par rapport aux solutions. On va avoir des lieux comme la mission locale, le CCAS, je sais pas, des aides, des bourses qui vont être données à certains étudiants. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui ne connaissaient pas la mission locale avant 25 ans. Enfin, c'est fou, il n'y a pas assez de...
Oui, on n'en parle pas beaucoup.
On n'en parle pas beaucoup, oui. En fait, finalement. Et en fait, on va avoir... 300, 400, 500 euros par mois, sachant que le SMIC, il est quand même entre 1003 et 1004, pour des personnes qui peuvent être dans la même situation que nous, hein. Travailler un 35 heures, vivre tout seul, payer des factures, assurance, patati, patata.
Il faut savoir que le seuil de pauvreté en France, il est de 1000 euros par mois, en plus.
Voilà, merci beaucoup, c'est hyper intéressant comme information. Et en plus de ça, dans le cadre, par exemple, d'un truc qui s'appelle le CEJ, à la mission locale, tous les mois, 500 euros pour un projet, peut être... versé en fait à un étudiant, une personne, enfin voilà. Tout comme avec les bourses, si tu travailles à côté et que tu dépasses un certain seuil, ta bourse ou ton CEJ baisse.
Ah.
Donc en fait, ce n'est pas cumulable. Un étudiant qui vit avec 400 euros, s'il travaille trop, à côté de ses études, il perd ses bourses.
Bon bah faut faire des boulots où t'es au black alors, faut vendre de la drogue et tout.
Bah ouais, tu fais du boulot au black, du coup tu...
Les stages mots de Quentin.
Bon bah allez dealer.
Je me perds.
C'est exactement ce qui s'est passé pour une amie qui voulait l'épicerie solidaire et qui a eu son truc refusé par l'assistante sociale parce qu'elle a trop bossé l'été. Mais enfin, ça devient...
Ça rend fou.
C'est l'enfer.
Bosser en restauration, enfin des trucs pas... qui n'a rien à voir avec ses études d'art, quoi.
Putain, mais même mentalement, quoi. Enfin, bosser à côté de ses études. Bon, la plupart de mes potes, en tout cas, ils font ça. Enfin, moi, je fais ça. Et sauf que en fin de semaine, t'es défoncé de fatigue. Mmh. T'arrives devant ton truc de devoir. T'es en mode, bon, 5 plus quoi égale 1000 fois. Bon, je fais pas de maths, hein, mais
quand même.
On a vu que je fais pas de maths. Voilà, c'est pour ça. Mais... ouais, c'est fatigant. Mmh. C'est ok, peut-être c'est normal de bosser carrément, mais si en plus on entend c'est normal de bosser, du coup si tu fais un 14 heures, tu n'auras pas beaucoup de thunes, mais après à côté, en plus les aides, tu ne pourras plus les percevoir parce que tu bosses.
Ouais,
mais,
hein non,
mais
c'est exactement ça.
Je te coupe un tout petit peu dans ta. Mais pour cette. Enfin, du coup, je repense à plein de situations, mais pour cette amie en particulier qui, du coup, travaille énormément et qui s'est. Enfin, énormément dans son travail artistique, dans ses jobs alimentaires à côté et dans toute chose en général. Bah, en fait, ce qui a été très dur à un moment, c'est que bon, c'était il y a 2 ans, mais on était en année diplômante de fin de licence. Et en fait, on est de plus en plus au Beaux-Arts, on a un système où on est très en autonomie. Donc, et surtout, plus on avance dans les années. Et donc, c'est toi qui gères ton temps. Et en fait, elle s'est retrouvée en 3e année à avoir 3 boulots. Et vu qu'on a du temps, sur le papier, on a du temps parce qu'on a de moins en moins de cours, parce qu'on est censé destiner notre temps à nos projets perso. Bon, en fait, elle destinait son temps à ses boulots alimentaires. Et on est arrivé à la fin d'un semestre où, en fait, elle avait vraiment stagné dans son travail et elle s'est pris c'était un coup dur. Les profs lui ont vraiment dit mais qu'est-ce que tu fais? Et il y a eu un peu un remaniement de ses priorités, etc. Je ne sais pas si du coup elle a quitté un job en moins ou un truc comme ça. Elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle ralentisse parce que sinon, sacrifier ses études. Et vu que nous, on est dans un mode où en fait personne va venir te chercher et on a un bilan semestriel, bah, on voyait vraiment que ça avait carrément attaqué sa pratique. Maintenant, elle a réussi à s'en sortir. Ouais, mais c'était vraiment
de
ce qu'on voyait.
De l'argent à ces personnes-là, voilà. Pour justement qu'ils restent focus sur leurs études, quoi, qu'il y a un mini salaire, quelque chose qui vienne de l'État, qui puisse être donné aux étudiants, quoi. Ça me paraît assez évident. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais des JO, Emma, pour rappeler à tout le monde que le CROUS va expulser les gens qui logent dans les CROUS étudiants à Paris pendant la durée des JO.
Ouais, mais c'est hyper intéressant parce qu'ils auront 100 euros.
Ça va! 100 euros. Bah, c'est bon, ils pourront planter une tente sur une plage et jouer de la musique l'été. Voilà,
une tente dans les rues de Paris?
Ouais, je sais pas.
On va t'expulser encore une fois.
C'est ça.
Tous ces mots, vas-y, quand
moi je vais juste dire une dernière chose. En fait, c'est marrant parce que donc on parlait de copains, il y a l'épicerie sociale et solidaire, il y a Mission Locale, tout ça, j'ai un peu l'impression que c'est un peu plein de petits pansements, plein de petites choses, et en fait ça rajoute de la fatigue. Tu parlais beaucoup, Emma, tout à l'heure, des charges, parce qu'effectivement il faut penser à je peux toucher telle bourse, je peux avoir tel truc, il faut que j'aille à Mission Locale. En fait, c'est tellement de temps que tu perds à faire ça au lieu de te concentrer sur ta vie, sur tes besoins, et c'est vraiment, j'ai l'impression que à chaque fois les solutions qu'on nous sort, c'est des petites choses comme ça.
Ouais, c'est qu'en même temps le grand changement, tu as lu un super article tout à l'heure, Quentin, mais
c'est vrai.
Le grand changement, on dirait qu'il ne se fait pas. Donc mine de rien, heureusement qu'on a aussi ces motivés qui montent les assos, qui viennent faire des distributions ou voilà, enfin même la mission locale, bon, qui font ce qu'ils peuvent, même s'il y a des modalités qui sont compliquées, justement peut-être une légère baisse de ces modalités-là, ce serait pas mal. Une petite adaptation serait cool. Madame Emma.
Oui, alors en fait, il se fait, mais beaucoup trop lentement par rapport à l'inflation et la rapidité en fait, des changements de société, enfin sociétaux, climatiques, parce qu'il y a toutes ces conditions qui viennent vraiment impacter nos générations. Merci les anciens. Bon, je ne vais pas plaindre en vrai, mais il y a encore milliards de choses qui se relèvent, qu'on peut relever. Et je peux dire un petit mot juste aussi à tous les étudiants et même hors étudiants qui nous écoutent. C'est hyper dur d'aller demander de l'aide, que ce soit aux institutions, que ce soit pour les bourses, peu importe. Mais aussi aux amis et à la famille, les gens qui sont autour de nous. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal et j'ai encore du mal à le faire. Mais parfois, quand on ne peut pas s'acheter à manger, on peut demander un paquet de pâtes aux copains.
Il n'y a pas de honte.
Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, ça leur fait plaisir d'aider. C'est tout, faut juste avoir un peu de courage et y aller.
Mais c'est difficile parce qu'après tu ça veut dire que tu acceptes que vraiment c'est la merde pour toi. Je pense que c'est ça qui fait qu'il y a du mal à aller voir la famille pour ces choses là
Mais c'est difficile de demander. Pourtant quand t'as un de tes potes ou un membre de ta famille qui vient te demander de l'aide, tu dis punaise, ok,
bien sûr, tu aides.
Merci d'avoir fait ce pas là parce que oui, si je peux, je vais t'aider.
Puis il y a plus de gens qui en fait ont conscience de la précarité étudiante autour de nous qu'on ne le pense, quoi. Mineurin, c'est un phénomène qui dure depuis les années 60, bien avant, quoi. Enfin, bon, les années 60, c'est un bon chiffre, parce qu'en général, tape ça sur Internet, tu vas voir précarité étudiante, 1960. Oui. Bon, mais en fait, on pense que c'est honteux, ou on a peur d'aller en parler, du fait que c'est compliqué, en fait, de vivre, mais fondamentalement, les situations de précarité en ce moment en France, il y en a différents types et il y en a énormément. Et c'est pas une honte, en fait, d'aller demander une aide, que ce soit auprès de structures ou, en effet, auprès de la famille, des amis, si on peut, quoi.
Mais je pense que ce qui est, en fait, la vraie honte, ce qui est réellement honteux et indigne, c'est que cette situation arrive. Enfin, la vraie honte, elle est sur le gouvernement qui laisse ça se passer.
C'est pas de la faute des gens s'ils sont pauvres, c'est parce qu'on leur donne pas ce qu'il faut, quoi.
Puis c'est bien dans le thème de la journée, parce que fondamentalement le thème de la journée c'est état d'urgence, donc on va devoir se laisser sur ces mots là
En tout cas, pour vous, auditeurs, auditrices, vous êtes toujours sur Zaï Zaï Radio. Et on va vous quitter sur de sages paroles de l'abbé Pierre. N'est-ce pas, Quentin ?
Tout à fait. J'aime beaucoup ce discours. Il est un peu bourrin, mais parfaitement maîtrisé.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire.